On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode.
Salut tout le monde, comment je suis content aujourd'hui d'accueillir non pas un invité, non pas deux, enfin si, deux, c'est deux invités, c'est un couple du coup. C'est la première fois que je vais inviter ou plutôt accueillir un couple de sportifs, un couple de coachs santé qui a aussi développé une marque dans des compléments alimentaires. Je suis très heureux d'accueillir Meryl et Flavio. Merci à vous deux. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et nous dire qui vous êtes.
Déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est super gentil. Donc, je vais commencer par moi pour me présenter. Donc, je suis Meryl. J'ai 23 ans et ça fait maintenant 4-5 ans que je suis dans la santé, que vraiment, je me renseigne autour de la santé et ça fait une petite année maintenant que j'exerce ma passion dans la santé avec le sport, la nutrition, le sommeil. Et comme tu l'as dit, on est en train de créer une marque de compléments alimentaires. Donc ça, c'est le gros projet qui est en cours de création.
Le gros projet commun du coup ensemble, donc passionné de santé, passionné de sport aussi, de ce que je peux comprendre. Flavio, j'imagine que pour toi aussi c'est la même chose, je te laisse te présenter, même si je pense qu'il va y avoir des similitudes avec la présentation de Meryl notamment.
Ouais, spoiler, il y a quelques similitudes. Effectivement, on développe voilà, une belle marque de compléments alimentaires. Et voilà, de mon côté, ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais du coaching 100% personnalisé et en ligne. Donc, je commence à avoir un beau background sur ça. Et donc, voilà, en fait, tous les jours, on fait notre passion. On aide les gens à se sentir mieux physiquement, mentalement, peu importe la nature des conseils. Et ce qui est fou, c'est que tous les jours, on en apprend encore. Donc, c'est à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter.
Ça, c'est génial parce que c'est un métier, je pense, qui évoluera sans cesse. On est à fond, notamment, dans différents métiers qui ont vu le jour, mais qui sont vraiment en train de prendre une tournure intensif dans le sens où vraiment c'est des métiers qui vont clairement exploser en 2024-2025 sur la santé. Tu parles de compléments alimentaires, bon, le sport, faire appel à un coach sportif, ok, c'est devenu entre guillemets à la mode, mais là on parle de au-delà de vraiment s'entretenir, c'est vraiment aussi de bien manger, d'avoir les compléments nécessaires pour bien se sentir. Donc je trouve ça cool. Ce que je trouve encore plus cool, c'est de vous avoir tous les deux en même temps. On a un petit peu en off organisé tout ça pour qu'il n'y ait pas de couac entre guillemets par rapport à notamment votre intervention. Mais voilà, en tant que couple passionné qui se connaissent plutôt bien, je pense que justement les choses sont bien rodées. On va y revenir justement sur le côté couple, mais tout à l'heure. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça bien, je trouve ça cool. On commence avec toi, du coup, Meryl, sur notamment une de tes premières fois, parce que c'est un peu la thématique du podcast. Ta première désillusion. Donc, vous êtes parti récemment un petit peu partout, voyager, Dubaï, en Asie, je crois notamment. Vous aviez prévenu un certain nombre de mois là-bas. Et finalement, vous êtes rentré au bout de 3 mois. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, ce qui s'est passé, comment vous avez vécu les choses, surtout d'un point de vue émotionnel, pour que les auditrices et auditeurs puissent comprendre un petit peu pourquoi ce changement ?
Eh bien, tout à fait. C'était un peu ce qui était prévu. C'est qu'on devait partir minimum 9 mois à l'étranger. Donc, on a vraiment tout quitté. Logement, on a tout vendu. J'avais une moto, j'ai tout vendu. On a tout déposé, les meubles, etc. Et pour partir, pour ne pas avoir justement de charges pendant le voyage, parce que vraiment, on ne se voyait pas payer en plus une maison chaque mois alors qu'on était à l'étranger. Donc, on devait partir principalement pour voir un peu ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment pour le sport, parce que vraiment, on n'est pas allé en mode vacances, mais on y allait pour aussi le business, pour voir ce qui se passait, notamment Dubaï, parce qu'on savait que c'était très développé niveau sport et on voulait voir un peu comment ça se déroulait, comment les gens appréhendaient le sport là-bas. Et du coup, on est resté quand même 1 mois à Dubaï. Donc, on a bien vu que les gens, niveau sport, étaient très avancés. Donc, limite, ils ont limite le médecin avec eux, prise de sang tous les mois. Enfin, c'est un autre level. Ou alors, le coach sportif met en salle de sport. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, finalement, nous qui faisions du coaching en ligne, c'est pas forcément l'endroit idéal. Ou alors, il faut revoir complètement le modèle. On a quand même rencontré de super personnes. Il y a de tout à Dubaï. Hein. On a les clichés, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont vraiment très sympas. Et après, on est parti en Asie. Et c'est là qu'on devait rester jusqu'au printemps, été. Et finalement, on est rentré beaucoup plus tôt pour plusieurs raisons, et notamment le fait qu'on n'ait pas vraiment apprécié le voyage. On parle beaucoup de digital nomade, on dit que c'est le rêve, hein, tout le monde fait rêver avec Bali, la Thaïlande, Dubaï, etc. Mais il n'y a pas que des points positifs, et notamment pour nous, ça ne nous a pas vraiment satisfait, donc je vais te laisser rebondir sur ça, sur les points qui ne nous ont pas vraiment plu, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important que tu le dises, le nomadisme digital, ça a réussi à certains, mais il y a quand même plus de gens à qui ça ne réussit pas finalement, en fait, quand on s'intéresse, c'est juste qu'en fait, les gens ne le disent pas. Ils ont l'impression de trahir les leurs. Je trahis les freelances et les solopreneurs en me mettant à dos du nomadisme digital. Mais en fait, c'est hyper dur parce que il y a ce sentiment de tu sais pas quand il faut visiter, tu sais pas quand il faut bosser. Tu culpabilises quand tu vas visiter un temple un mardi alors que tu devrais bosser. Et du coup, tu te sens bizarre parce que tu rattrapes le samedi. Tu dis attends, je suis à l'autre bout du monde et je suis en train de bosser un samedi après-midi. C'est quand même bizarre. Et en plus, on sous-estime la difficulté à retrouver nos habitudes dans un environnement extérieur, alimentaire, sportive. Donc c'est un peu aléatoire, ça peut dépendre aussi où est ton logement, quels vont être tes voisins, tellement de choses. En fait, on s'est rendu compte que la plupart de notre charge mentale partait dans OK, comment on s'organise aujourd'hui, plutôt que de se dire OK, comment on fait pour améliorer notre business, améliorer nos relations clients, etc., etc.
Et t'as pas parlé aussi du décalage horaire, qui n'est pas forcément évident, parce que nous, on a nos clients qui sont en France. Quand tu es en Asie, que tu as plus 6 heures et que tu dois les appeler à 18 heures, toi, il est minuit, ça commence à être très, très complexe et tu sens que ça ne peut pas durer, en fait. C'est trop de décalage. En plus, nous, on fait attention aussi à ça. On aime bien avoir nos routines parce que on s'habitue et pour notre santé, etc. C'est bien d'avoir des fois des moments un peu désorganisés, mais quand ça dure trop longtemps, c'est plus du stress qu'autre chose, alors que tu es censé prendre du plaisir quand tu voyages. Donc, c'est bon, c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré, plutôt.
Ouais, vous allez dans d'autres pays, vous devez vous adapter à la culture, mais aussi vous adapter à votre écosystème, à vous en France, que vous avez tout quitté pour aller là-bas. OK, mais il y a quand même les clients, il y a des choses qu'il faut garder pour notamment vivre, même si on va se développer, que ce soit à Dubaï ou en Asie. J'aime bien ce sujet-là parce que, comme vous l'avez dit tous les deux si bien, il y a le côté, en mode digital nomade, on y va, on va faire notre vie, c'est meilleur ailleurs. Et puis en France, non, c'est pourri. Je grossis le trait, hein, je dis pas que vous avez dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes qui nous écoutent, les personnes qui voient en tout cas passer des choses sur les réseaux se disent on va essayer de trouver mieux ailleurs. Et puis au final, parfois, c'est chez soi que c'est bien. Notamment, c'est aussi pour ça, je pense, que vous êtes revenu, vous êtes rendu compte de pas mal de choses. Et je trouve que votre message, il est fort. Il est puissant dans le sens, on peut faire des belles choses, que ce soit en France, ça peut aussi très bien marcher à Dubaï. Attention, pour vous, ça n'a pas été le cas, vous n'êtes pas reconnu dans certaines choses. Mais ma question, c'est par rapport à ce que tu disais, Meryl, au point de départ, donc tu as vendu ta moto, vous aviez un appartement, vous l'avez rendu. Comment on fait ? Donc, vous avez gardé notamment vos clients, il y a cette précaution-là. Mais le côté précaution que vous n'avez pas eu, attention, ce n'est pas un jugement, c'est de se dire, on quitte tout, on va là-bas, on verra ce qui se passe. Bon, au final, vous avez statué, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Est-ce que c'était un pari risqué dans le sens de tout quitter, puis de toute façon on sait qu'on pourra rebondir si on doit retourner en France, on reprendra un logement, on rachètera une moto ou autre. Est-ce que c'était calculé, comment vous aviez anticipé ça notamment?
T'as très bien dit, c'est que au final oui c'est un risque, mais en même temps un risque pourquoi? On risquait pas grand chose, que comme tu dis, un logement ça se retrouve. On avait quand même la chance pour nos meubles, on les a laissés chez la grand-mère de Flavio, mais au pire on aurait payé un garde-meuble qui nous aurait coûté quand même bien moins cher qu'un logement, parce que on payait plus de 1 300 € le logement, donc ça a une somme aussi par mois. Donc au final, il y a le risque, c'est le fait qu'on soit parti, ça ne valait pas le fait de devoir tout garder. Enfin, on n'avait vraiment pas de risque, donc autant tout quitter, partir, être tranquille, l'esprit tranquille, parce que c'est aussi ça, si on part et on flippe de tout, on n'est pas rassuré, c'est encore une charge mentale en plus. Et là, on s'est dit, on n'a pas de charge mentale, on n'aura pas de facture à payer, machin, tout ça. Et du coup, c'est plus simple. Et si on veut revenir en France, on reprendra un logement. Puis, on a quand même la famille en France aussi, à côté de Bordeaux, en région parisienne. Donc, on n'est pas à la rue. Contrairement à d'autres personnes qui pourraient être un peu plus dans des cas compliqués.
Ouais, donc il y avait quand même ce côté où, on part, mais on ne fait pas n'importe quoi. Déjà, vous êtes à deux, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Il y a cette entraide mutuelle, c'est-à-dire psychologique et matérielle si besoin. Mais c'est de dire que si ça ne fonctionne pas, on reviendra et on saura bondir. OK, merci pour cette première fois qui est... qui est bien, qui est importante et que voilà, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour trouver la paix et être bien. La preuve, vous êtes en train de développer notamment cette marque de compléments alimentaires dont on a parlé en début d'épisode. Vous allez le faire en France du coup. Donc ça, c'est plutôt cool. On va maintenant parler d'une autre première fois, la deuxième, mais cette fois-ci à Flavio. On a commencé par Meryl, une heureuse femme. Maintenant, on passe par Flavio. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Je parle aux auditrices et aux auditeurs pour notamment avoir chacun un temps de parole. Et après, il y aura des premières fois communes. On y reviendra un petit peu plus tard. Restez avec nous, ça va être intéressant. Du coup, Flavio, on en avait discuté en off et moi, cette première fois, elle m'a fait sourire et je pense qu'elle va faire sourire aussi les auditeurs qui nous écoutent. Ta première opportunité risquée. Donc là, on part d'une opportunité business. Je vais juste dire un mot, je vais dire Bulgarie. À toi de nous développer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Dis-nous tout. Qu'est-ce que ça veut dire Bulgarie par rapport à ce qu'on s'est dit, toi et moi, en off?
En fait, ça faisait pratiquement 2 ans que je m'étais lancé à mon compte. Et tu vois, avec le Covid qui nous a traversé, quand tu étais un coach, si tu n'étais pas très connu, c'était vraiment le néant. Hein. C'est-à-dire, les gens, ils disent, oui, il y avait le distanciel, les séances maison, mais ça marchait si tu avais des centaines de milliers d'abonnés, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et bon, ben, c'est pas que je déprimais, mais voilà, je me dis, là, faut quand même que je prouve aussi à Meryl, à ma famille, que je peux le faire. Et là, sur un forum dans lequel je participais, où je donnais des conseils nutrition à des gens gratuitement dans l'espoir que quelqu'un veuille prendre un programme, un mec me DM et me dit « Salut, j'ai une proposition. Moi, je vends de la formation nutrition, mais j'ai pas de vidéo nutrition. Ce serait cool que tu tournes les vidéos et je m'occupe de toute la vente, de trouver les clients, du suivi client, etc. T'as juste à répondre aux questions aux gens et à faire les vidéos nutrition. » Tu vas me dire « Jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. » Et il me dit, rencontrons-nous. Je lui dis, bah, bien sûr, t'es sur Paris, t'es sur Lyon. Non, viens, je suis à Sofia en Bulgarie.
Ah. Et pas Sofia Antipolis, voilà, Sofia en Bulgarie.
Et donc, là, c'est un mec sans photo de profil qui m'a envoyé un message sur un forum. N'importe qui se serait dit, mais qu'est-ce que tu fous? Et je sais pas, j'ai eu l'instinct, je me suis dit, ok, j'y vais. Déjà, le mec, quand il me donne sa vraie identité en arrivant sur place, je me rends compte que c'était même pas son vrai prénom que j'avais. Donc là, vraiment, je croyais au kidnapping le plus total. Mais, étant donné que j'avais prévu le truc, et ça c'est la petite anecdote qui fait rire beaucoup de personnes, j'ai appelé un pote à moi, je lui dis qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Il me dit bah je suis en week-end. Je lui dis mec, je te paye le billet pour la Bulgarie, viens avec moi. Et s'il y a un problème, si au bout de 2 heures je te réponds pas, t'appelles l'ambassade. Je lui ai filé une fiche avec le numéro de l'ambassade, mon numéro, le numéro du gars, tous les historiques des messages, toutes les adresses IP, tout ce que je pouvais, parce que je me suis quand même dit putain, on va quand même au fin fond de la Bulgarie. On sait jamais, à l'époque, il y avait la guerre en Turquie, enfin, il y avait une grosse révolte, donc c'était quand même un pays frontalier. Et donc, je lui ai pris Airbnb à côté, et au final, tout s'est bien passé.
Et c'est ça qui est ouf. Bon, tu t'es dit finalement, je vais faire venir un pote, comme ça, si je me fais kidnapper, on sera deux. Non, je plaisante, tu l'as pas fait pour ça, mais non, quand tu dis tout s'est bien passé, c'est que on va revenir après sur ton instinct, ce qui t'a poussé notamment à suivre ton instinct. Tout s'est bien passé, ça veut dire que c'est un des plus gros contrats que t'as signé, je crois. Donc, c'est parti d'un message assez simple, on recontextualise un petit peu le truc, c'est... On reçoit des messages, nous, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Insta ou autre, des propositions, des partenariats. Là, t'as un mec, il n'est pas à Sofia Antipolis, il est à Sofia en Bulgarie, il te dit, écoute, j'ai un besoin, j'ai pensé à toi, il t'explique. Qu'est-ce qui fait que toi, ton instinct dont tu parles, on parle souvent de l'instinct de l'entrepreneur, on le sent, on le sent pas. Là, on ne parle pas juste de se dire, je vais aller dans le sud de la France, je vais aller en Bulgarie. On sait qu'il y a des stéréotypes, il y a des clichés par rapport à la Bulgarie. Tu vas peut-être me confirmer que ces clichés sont vrais d'ailleurs, notamment sur pas mal de choses dont on avait parlé en off. Qu'est-ce qui fait que tu dis « Ouais, j'y vais ». Est-ce que tu as des choses à te prouver à toi-même? Est-ce que tu sens vraiment le truc? Est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage de doute? Comment tu as ressenti les choses?
En fait, il m'a quand même envoyé un élément de réassurance qui est un site web où effectivement tout apparaissait comme convenu. Et là, pour le coup, toute cette partie était ultra professionnelle. Tu vois, c'était pas un site bizarre, c'était un site qui était parfaitement fiable finalement. Donc en fait, j'ai bien vu, enfin tout était carré. Et en fait, 2 jours avant de partir, il me dit « il y aura aussi ces 2 personnes qui bossent avec moi ». Et en fait, là, je vois que la chaîne YouTube existe bien, que les mecs sont réels, je leur envoie un message, ils me répondent, ils me disent « trop bien, ben nous, on part de Paris, on prend l'avion juste après toi dans la journée, on se retrouve là ». Donc, je me dis « ok, les mecs ont mon âge en plus ». Donc, je me dis « bon, soit c'est le plus grand traquenard de ma vie, soit je me fais un peu du sang pour rien, comme on dit, voilà, c'est compris.
Ouais. Et ouais, tu t'es quand même renseigné, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais. T'as fait confiance à ton instinct, mais t'as quand même vérifié certaines infos qu'on peut maintenant un peu plus trouver sur Internet. Bon, le gars, t'as quand même dit, une fois arrivé sur place, que, enfin, t'as quand même montré que c'était pas sa vraie identité. Ouais. Est-ce que ça, si tu l'avais vu avant de partir, t'aurais eu un petit doute?
Je pense que j'aurais préféré savoir son prénom avant d'arriver quand même.
Ouais.
Parce que bon, là, du coup, je cherchais à l'aéroport, je cherchais quelqu'un qui s'appelait pas comme ça. Donc, okay. Tu vois, c'est un Français, hein, mais et aussi un truc, c'est bizarre. J'en avais reparlé avec mes parents. Ils étaient hyper sereins. Et mes parents, tu sais, toi et moi, on a un point commun, c'est qu'on est des origines siciliennes.
Exactement.
Tu vois, moi, faut quand je rigoler. Pars le soir, ma mère, elle me dit, tu vas où et tout. Et là, je comprends pas, elle était plus rassurée à l'idée que je dise, il y a un mec qui m'a contacté de Bulgarie, que je dise, je sors à Bordeaux-Centre.
Ok.
Et je me suis dit, si vraiment toute la famille a cet instinct qu'il faut y aller, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui s'expliquent pas et il faut foncer, quoi.
Et tous les feux étaient au vert, c'est-à-dire que, on a souvent les proches qui disent non, fais pas ci, fais pas ça, et des fois, on va à l'encontre de ses proches, on part en opposition pour, justement, soit par rébellion, soit par envie ou par choix. Toi, t'as quand même ces feux verts qui te disent, bah, vas-y, bon, va te faire kidnapper. Non, mais ce que je veux dire, va au bout des choses, t'as peut-être une opportunité de dingue. C'était quand même, les étoiles étaient quand même alignées, on va dire.
Ouais, puis aussi, un truc aussi faire peur à beaucoup de personnes, c'était les propositions financières, parce qu'en fait c'était j'étais payé selon le nombre de clients qu'il y avait, selon le nombre de vidéos que je faisais et le nombre d'heures, mais enfin c'était des sommes qui même aujourd'hui tu vois restent hyper importantes pour moi, genre même après 3 ans quand je les vois je me dis même si aujourd'hui j'ai un nouveau contrat avec ça, j'irai le chercher. Donc c'est, je pense qu'il y a aussi une part de ça vaut le coup d'aller voir. Parce qu'il y a vraiment un pactole à aller chercher. Et le pactole était vraiment là, en plus. Et c'est-à-dire que tout est vrai, quoi.
C'est un beau message que t'envoies. Et si les gens nous écoutent, si vous recevez un message de Bulgarie, bah, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de, il n'y a pas que de clichés, hein. Donc, bon, la Sicile, je dis pas. Faut se méfier. Faut se méfier des Siciliens.
Attention.
Mais, attention. Ok, hyper intéressant. Merci pour ce partage-là. On passe du coup à Meryl, la troisième première fois, mais la deuxième pour elle. Ton premier grand saut. Meryl, c'est-à-dire que la première fois où tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu étais prédestiné justement à autre chose que la santé, à autre chose que le domaine du sport. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et nous raconter un petit peu justement ce premier grand saut ?
Ça fait, bah, j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait jusqu'à un master, donc j'ai fait toutes des études de commerce et après un master achat, donc j'ai quand même fait 5 ans d'études. Donc j'ai fait mon alternance dans une grande entreprise française. Et c'était la suite logique, en fait. Après l'alternance, tu te fais embaucher dans une entreprise. Sauf que finalement, ça me plaisait pas plus que ça. Il faut savoir qu'en 2021, année Covid, avec Flavio, on avait quand même créé un site e-commerce pendant le Covid. Donc, on avait taffé comme des fous et tout pour avoir un complément de revenus. Donc, moi, c'était la première fois que je touchais un site e-commerce, que je me formais à ça. Et franchement, ça m'avait pas mal plu. Et je me suis dit, OK, en fait, tout seul, on peut y arriver. On peut se faire de l'argent. Bon, il suffit de travailler, c'est sûr. Mais ça marche quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, les achats, j'aime ça. Mais là, le contexte me plaisait pas forcément. En fait, dans les grands groupes, quand tu prends une décision, ça prend 3-5 ans à être mise en place. C'est un enfer. Vraiment, tu te dis, tu as les compétences, mais tu peux pas vraiment les mettre à profit parce que bah, y a tellement de personnes à convaincre, à mettre d'accord que c'est trop long. Et ce temps me dérangeait un peu. Et dans les grands groupes, vraiment, une personne a une mission bien précise. Donc, tu fais ton truc et c'est tout. Et donc, t'as pas l'occasion de voir grand chose. Tu peux évoluer, mais quand tu commences forcément en bas de l'échelle, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Donc, je me suis dit, OK, Flavio était déjà dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bah, j'ai entre guillemets rien à perdre. Au pire, j'ai quand même mon master, je pourrais retrouver. Et puis, il y a Flavio pour m'aider. Il suffit de me former comme je l'avais fait pour le site e-commerce. Et ça va le faire, sachant que ça faisait 4-5 ans que je me renseignais à fond sur la santé, avec des livres, des études. Même moi, je faisais beaucoup de sport, je faisais attention à la nutrition. Enfin, j'ai changé énormément de choses qui ont fait que bah, j'aimais trop ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose autour de la santé. Et je me suis dit, bon, bah, let's go. Hein. J'ai, entre guillemets, encore une fois, pas grand-chose à perdre. Enfin, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc, il faut que je me lance. Et encore une fois, je ne risque rien. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Et franchement, depuis, je suis très, très contente. Je ne regrette pas du tout. Très vite, j'ai eu des clients. Je suis trop contente. Finalement, avec du recul, je me suis dit, oh ouais, c'est dur. Mais quand tu te dis, en 3 mois, t'as fait 6-7 fois plus qu'un SMIC, tu te dis, bon, bah franchement, ça marche. C'est cool. Mes compétences, mes connaissances sont là. Et j'aide vraiment des gens. Donc, c'était hyper satisfaisant de se dire, bah t'es là pour aider. Ça marche. Et je me suis dit, bah, trop bien, faut que je continue là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai pas lâché.
C'est bien, tant mieux, et bravo à toi, bravo à vous deux, parce que vous êtes maintenant ensemble, je parle pas du couple, mais au niveau de la structure que vous essayez de mettre en place, mais t'étais pas à ta place, toi, Meryl, au départ, t'étais dans un grand groupe, bon, y a des gens qui peuvent s'y retrouver, toi, ça n'a pas été ton cas, donc tu t'es dit, il faut que je puisse voler de mes propres ailes, il faut que je tente certaines choses. T'étais avec Flavio, justement, en couple à l'époque, lui, il était déjà lancé, donc c'est quelque chose, j'imagine, qui t'a rassuré un petit peu. Est-ce que quelque part tu te serais quand même lancé si tu n'avais pas été avec justement un entrepreneur? C'est une question un peu spéciale dans le sens, tu vois Flavio qui réussit, je pense, peut-être un peu par ses propres moyens, tu te dis que c'est possible. Est-ce que tu aurais quand même eu envie de te lancer ou pas?
Je pense que c'est une bonne question, je me suis toujours un peu posé la question. Peut-être qu'au début, pas forcément, parce que alors, mon père est très... très en fait trop protocolaire en fait, c'est lui, c'est les études, nanana, on continue le job, tout ça, longue période dans une entreprise, alors que ma mère pour le coup c'est tout le contraire. Ma mère elle a fait 15 milliards de métiers, c'est un peu aussi la battante, je pense que j'ai pris ça de ma mère, c'est qu'elle veut quelque chose, elle y va à fond, c'est elle va tout faire, et je pense que à terme ça m'aurait beaucoup plus plu de faire comme ma mère, mais au début quand on sait pas trop, quand on n'a pas les connaissances, moi je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat, donc je connaissais pas les gens à suivre. Formation en ligne, c'était limite si je savais ce que c'était. Enfin voilà, c'est petit à petit après quand tu connais les personnes que tu te rends compte qu'il y a un monde qui existe, que tu peux vraiment te former en ligne et que c'est possible d'y arriver seul. Donc petit à petit, je pense que j'y serais allée, mais pas aussi rapidement que si je n'avais pas rencontré Flavio.
Donc Flavio, tu as ta part de responsabilité dans le succès de Meryl. C'est beau quand même.
Je suis content, non, mais tu as totalement raison. Et je pense que tu as oublié de préciser aussi qu'il y a un moment quand même où tu avais l'alternance. Le soir, tu te formes en nutrition, parce que quand tu dis « je me suis renseigné », c'est une façon gentille de dire que tu t'es vraiment bien formé. Tu n'as pas juste lu trois bouquins. Et en fait, Meryl, vous devez savoir, c'est quelqu'un, une fois que tu l'as mis sur le droit chemin, elle va trop vite. Genre, vois, au démarrage, t'étais plus en mode j'hésite, mais une fois qu'on a dit attends, viens, on décale le wagon, on le met sur les bons rails, j'ai à peine mis le wagon sur les rails, je me suis dit attends, moi, j'ai du mal à suivre.
Tu vois, ouais, c'est vrai.
Donc il y a le temps de réflexion qui est délicat, et après, une fois que t'es dedans, en fait, c'est parti quoi.
C'est ça, c'est le temps que je me dis bon, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais les bonnes choses, et une fois que j'ai l'impression d'être sur les bons rails, c'est vrai que j'y vais, il faut faire ça, et j'enchaîne, et comme il a dit, c'est vrai que je me formais à la nutrition, j'avais l'alternance, j'avais le site e-commerce. En même temps, je faisais beaucoup de sport, donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup.
Et en couple.
Mais en fait, et c'est là que ça montre que la santé, c'est trop important. C'est que grâce à tout ce que je mettais en place, grâce à ma bonne hygiène de vie, j'étais tellement productive que je pouvais faire tout ça sans me sentir fatiguée. Et pourtant, j'étais vraiment en forme. J'étais au top, même sur mon physique et tout. Enfin, j'étais vraiment bien. Et ça montre que quand on est bien organisé et qu'on a une bonne santé, on peut être beaucoup plus productif. Et t'envoie du lourd, quoi.
Carrément. Et le message est beau que vous envoyez tous les deux. Moi, je vous vois, les auditeurs, non. Et je vous trouve beau aussi. Beau en tant que couple, physiquement, mais beau aussi dans le message que vous véhiculez, parce que ça montre que même quand on est en couple, en tant qu'entrepreneur, on peut réussir. On reviendra là-dessus, parce que moi, c'est vrai que j'avais des idées un peu arrêtées par le passé. Je trouve ça bien d'en débattre, mais de manière intelligente et bienveillante. Toujours. Question dont on n'avait pas abordé ensemble en off, ça fait combien de temps du coup que vous êtes ensemble et comment vous vous êtes rencontrés?
Ça fait 3 ans.
Et demi.
Et 7 mois. Non, attends, ça fait 3
jours, 2 heures.
7 mois et 26 jours.
Waouh.
Et on s'est rencontrés à la fac lors de nos études. Pour l'anecdote, en fait, ça faisait un an et demi qu'on savait l'un l'autre qui on était, mais on ne s'était pas. On s'était pas plus parlé que ça. Et en fait, à un moment, Meryl avait un projet de on devait avoir une asso, quoi, à l'école. Elle avait une asso qui avait pour but d'organiser un concert, avec l'école. Et, moi, je faisais de la guitare. Donc, forcément, salut Flavio, est-ce que tu vas faire de la guitare? Je lui ai fait un riff et voilà.
C'est le riff qui a su justement séduire Meryl. OK.
Et bien, en fait, pour la petite anecdote, on s'est connus et, on commençait à se dire, bon, ben, va falloir qu'on se voit sérieusement. Bam, Covid. Donc là, on s'est dit, c'est qui tout double? Et mademoiselle a eu la très bonne idée de m'appeler tous les jours pendant 2 heures, pendant 2 mois et demi. Et je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est la bonne. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, quoi.
Je l'ai dit, quand je veux un truc, hein, j'y vais à fond.
On a vu ça, que ce soit du coup pour le côté pro et le côté perso. Merci pour ça, vous êtes adorables tous les deux. On continue du coup avec une quatrième première fois. Cette fois, on place à Flavio. Après la Bulgarie et puis le côté un peu risqué mais qui finalement s'est avéré très 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 productif, on parle de quelque chose un peu moins séduisant, un peu moins sexy, le fléau un petit peu de tous les entrepreneurs, c'est ton premier impayé client. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas bien faites? Est-ce que tu referais des choses mieux? Dis-nous, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour qu'on puisse bien comprendre justement les choses à éviter quand on est notamment avec un client qui ne paye pas.
Écoute, moi je pense qu'avec ce client, on coche toutes les cases des pièges de l'entrepreneuriat dont tu parles si bien au quotidien. Le premier, c'est la surconfiance. On se dit, lui, on le sent bien, c'est bon. Et en fait, on devient pote, on sympathise, on n'ose pas faire signer des contrats, on n'ose pas relancer le paiement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon client aussi a eu des problèmes perso, ce qui fait que c'était du coaching présentiel. Donc, j'allais chez lui à Bordeaux faire des séances. Et donc, il me devait le mois de novembre, le mois de décembre, puis janvier, on a fait une pause, puis février, on reprend, je suis content de le revoir. Donc, je lui dis, attends. Et en fait, il y a un moment où je me dis, attends, mais là, il me doit 8 400 €. Parce qu'il y avait un an de sport avec 3 séances à la maison, je coachais son bras droit parce qu'il était patron, je le suivais sur la diète. Et là, je tombe et je me dis, bordel, j'ai rien comme preuve. Et en fait, même moi, avec le recul, j'arrive pas à t'expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai attendu autant. Parce que on sait très bien qu'il faut mieux payer 10 fois 800 qu'une fois 8000, quoi. Enfin, psychologiquement, pour le client, ça peut l'achever, 8 000 € d'un coup pour du sport. Entre guillemets, pour du sport, même si pour important, t'as compris. Et en fait, ce qui m'a sauvé, je crois que c'est ma bonne étoile et surtout mon professionnalisme qui lui a fait dire, je peux pas lui faire un tel coup, même si tous les signaux sont dans le vert. Et au final, en fait, quand je lui ai dit, écoute, là, tu me dois 8000 balles, il m'a signé quelque chose. Donc déjà, j'étais content, mais j'ai été payé quelques jours avant la liquidation et la saisie judiciaire de cette entreprise, où j'étais même pas au ce bordel, et à quelques jours près, soit je me lançais dans 4 ou 5 ans de justice pour récupérer mon argent, soit vraiment je faisais une croix dessus. Et aujourd'hui, ces 8 000 €, entre autres, ils ont servi à financer la recherche et développement, tu vois, des compléments. Donc, c'est vraiment hyper important de les avoir. Ah non, c'est pas. On parle pas d'un truc, et pour la petite anecdote, il me doit encore 400 €, mais tu sais quoi, c'est pas grave.
Ouais, le plus gros a été payé, quoi.
Ouais, c'est ça, 400 €. Ça va.
Pour la charge mentale que ça va être.
Voilà, c'est bon.
De courir après.
Là, on est sur un cas un peu spécial. Bon, tu n'avais pas signé de contrat, tu sais que c'est une erreur, tu ne le referais plus. Et justement, les gens qui nous écoutent doivent savoir en tout cas que c'est important de le faire, de ne pas donner que sa confiance, même si on sent bien la personne. Tu en as très bien parlé, Flavio, tout à l'heure. Quand je dis c'est un peu spécial, c'est que tu as quand même eu, je pense, bon, il y a la bonne étoile, mais tu étais face à quelqu'un qui était quand même humain, tu as eu des très bons rapports avec lui, tu l'as coaché, tu as coaché aussi son bras droit, même si peut-être il n'avait pas l'intention de te payer, ça se trouve il ne payait pas ses prestataires, et puis comme tu dis, il était en liquidation, donc à mon avis, il y avait un peu de ça, mais il s'est dit, à Flavio, je ne peux pas lui faire ça. Donc quand je dis c'est un cas un peu spécial, c'est que justement, il y avait vraiment cette relation de confiance, il y avait vraiment la volonté, en tout cas, tu étais plus qu'un coach peut-être pour lui, un ami aussi par rapport aux séances que vous avez pu faire. Donc, ça se termine bien, tant mieux. Mais quand je dis mais, c'est pas pour toi, c'est pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment de faire très attention à ça. Parce que voilà, si au bout d'un mois, deux mois, bon, ça peut arriver, hein, les problèmes de paiement. Mais dans ces cas-là, on prévient, on fait pas le mort. Toi, tu as su notamment tirer un petit peu les oreilles, entre guillemets, et dire maintenant, j'ai besoin de ça. Et puis au final, ça se termine plutôt bien parce que ça t'a permis notamment de faire un petit peu cette recherche en développement pour votre marque, notamment de compléments alimentaires. Et puis maintenant, c'est pour aller vers un succès encore plus grand que ce que vous aviez construit auparavant.
Ouais, et franchement, tu vois, maintenant, je fais toujours signer des contrats. Et du coup, je m'étais quand même pas mal renseigné parce qu'en fait, pour la petite anecdote, il m'a payé au moment où je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé d'en arriver là. Je vais devoir saisir la justice. Et j'ai reçu un virement instantané dans la demi-heure qui a suivi. Donc, je m'étais bien renseigné quand je lui ai dit, je vais saisir la justice. C'est que je savais quel avocat j'allais prendre. On avait déjà échangé avec l'avocat. Enfin, tout était prêt, quoi. Mais le truc, tu vois, c'est qu'il m'a quand même dit, en vrai, même s'il y a un contrat, même si t'es gagnant, ça peut prendre des années. Et la plupart des gens n'iront jamais au tribunal pour 500 000, voire même 2 000 €. Donc, j'incite toutes les personnes à nous écouter, qui nous écoutent plutôt bon, faites toujours signer parce que même psychologiquement, le client, il est plus investi quand il signe. Ouais, il est investi. Mais tu vois, moi, je fais une récompense pour ceux qui me payent en un coup. Là, tu vois, il y a quelqu'un sur 6 mois, il m'a pris un suivi, il m'a payé d'un coup. Donc pour 6 mois, tu vois, là c'était un suivi qui était en plus à 5 000 €.
Tu lui fais un cours de guitare, non?
Non, j'ai même pas fait de grande guitare. Non, je lui ai offert un mois. Parce que je lui ai dit, je remercie, parce que moi en plus ça fait 5 000 que je peux utiliser directement pour des projets, réinvestir dans mes équipes. Donc, pour te remercier, je t'offre un mois.
Ah, c'est top, c'est bien. Il y a cette fidélisation, c'est même plus qu'une fidélisation. Il n'y en a pas beaucoup des clients qui font ça. Moi, quand je travaille avec un prestataire, un freelance, je paye toujours à l'avance parce que je ne veux pas que l'argent soit un problème. Je veux que la personne elle se concentre sur ses compétences, qu'elle puisse vraiment se concentrer sur le travail dont j'ai besoin et rien d'autre. Ce n'est pas toujours le cas, c'est difficile. Moi, je donne souvent des conseils justement sur les impayés clients parce que j'en ai vécu en tant que chef d'entreprise en 8 ans. Et ce que je dis aussi, là, tu parles de la justice notamment, c'est quand même pas un hasard. C'est-à-dire que quelques temps après, tu as un virement instantané. Donc, moi, ce que je conseille aussi souvent, c'est une fois que tu as fait des relances plusieurs fois, la personne ne répond pas, elle fait le mort, que ce soit sur n'importe quel canal de réseau ou de téléphone, c'est de dire justement que tu seras dans ses bureaux ou chez lui, à son domicile, la semaine prochaine avec un huissier, avec un expert, avec un avocat. Il faut bien se renseigner sur la bonne terminologie de la personne qui sera là. Mais généralement, ça dissuade. Et toi, tu l'as dit justement sur le mail, donc ça prouve que ça fonctionne. Donc, faire très attention à ça et merci pour ce partage, en tout cas.
Avec plaisir.
Yes, du coup, on a parlé de Flavio, on a parlé de Meryl, on a parlé de Meryl, on a parlé de Flavio. Maintenant, on parle d'une première fois commune. Votre premier gros investissement, donc là, on parle de votre projet actuel. Le projet qui vous unit, vous, en tant que couple, et là, qui va vous unir encore plus, même si c'est déjà le cas, en tant que couple d'entrepreneurs. Donc, vous développez votre marque de compléments alimentaires. Gros investissement, donc, à la fois, je pense, psychologique, matériel, donc financier également. Dites-nous en plus, démerdez-vous pour savoir qui commence. Allez-y.
Ok, en fait, les compléments alimentaires, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu créer, parce qu'en fait, on y pense depuis toujours, et en fait, on ne comprenait pas les gens qui consomment, qui consommaient et qui consommeront des compléments non made in France. C'est hyper dangereux parce qu'en fait, la législation n'est pas européenne, elle est interpays. Donc, si vous avez des compléments, alors je parle même pas des compléments made in US, hein, mais même made in Spain, Portugal, Europe de l'Est et tout, mais genre, gros red flag. Et on s'est dit, tiens, il y en a marre qu'à chaque fois qu'il y a un projet de complément alimentaire, ce soit juste un businessman qui a eu l'idée. Là, la tagline, c'est le couple de coachs qui, en plus d'aider des centaines, des milliers de personnes chaque année à se reprendre en main, on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va faire une marque de complément. Et on s'est intéressé aux investissements et on s'est dit, cool, on peut se le permettre. Par contre, à la fin, une fois qu'on aura payé tout ce qu'on doit payer, sur le compte, il y a peanut.
Vrai, on met vraiment toutes nos économies sur le projet. Comme tu l'as dit, en fait, les compléments, c'est que même nous, on en consommait. Donc, on s'est dit, c'est la suite logique entre notre parcours sur deux coachs santé et nutrition et du coup de créer notre propre marque. Et surtout, comme tu l'as dit aussi, c'est que tous les compléments alimentaires ne se valent pas, malheureusement. Donc, tout le monde dit, oui, il existe des milliers de marques, comment vous allez vous démarquer, etc. Mais il faut savoir que tous les compléments alimentaires ne se valent pas, tous ne sont pas français. Et encore une fois, les normes françaises ne sont pas les mêmes que les normes des autres pays. Et c'est vraiment un gage de qualité. C'est pas juste un axe marketing de dire, oh, c'est made in France. Non. C'est qu'en fait, nous, on va être les premiers à les consommer et c'est hyper important d'avoir des bons produits dans notre corps parce qu'encore une fois, on les mange, quoi. Donc, s'ils sont pas bien assimilés, pas bien dosés, s'il y a des produits rajoutés qui sont vraiment pas bons pour la santé, bah, ça a plus d'effet. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très qualitatif. Et c'est pourquoi on met aussi, comme on dit, toutes nos économies pour ce projet-là parce que on veut de la qualité. Donc, ça demande beaucoup d'investissement en temps, comme tu l'as dit, en moyens. Financier, matériel, et donc on a mis, je sais pas si tu veux dire combien on a mis, on le dit ou pas.
Pour ça, on a mis 60.
Ouais, on a déjà mis 60 000 euros dans la marque.
Mais on a, pour l'instant, pas un centime de plus parce que on n'a pas un centime. Alors là, on dit on a mis, en fait, on sait pas à quand sortir le podcast, on en est, ça se trouve tout à capoter, ça se trouve c'est déjà sorti, c'est un carton plein, ça se trouve ça sort la semaine prochaine. Du coup là en fait on est vraiment faut que les gens comprennent que quand on tourne ce podcast, là on l'a annoncé hier sur les réseaux que ça démarrait.
Officiellement, ouais.
Ok, hier donc pour que les gens sachent, on est le 9 janvier.
Ouais.
Donc je pense la diffusion, allez on va compter 2 mois max, dans 2 mois max, j'espère que vous n'aurez pas mis la clé sous la porte quand même, non?
Non, non, bah on espère à la limite que ça sera déjà en train de... bientôt en train de sortir parce que on a signé le contrat, donc c'est bon, c'est pour ça qu'on s'est engagé publiquement. On va signer les premiers devis pour les prods et puis normalement après c'est lancé et ça devrait sortir d'ici 2-3 mois comme on avait pris de l'avance le temps de signer le contrat. On avait déjà tout réglé, les devis, etc. Enfin réglé, voir un peu les subtilités. Donc voilà, donc c'est un gros investissement et il faut se dire que il faut être solide aussi, parce qu'en tant que couple, on se dit quand même, on met tout, donc on n'a plus rien après. C'est pas forcément évident, mais encore une fois, on est jeune. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de maison, donc on n'a pas non plus de factures à payer. On n'est pas dans l'obligation de devoir quelque chose à chaque mois. Donc, on s'est dit, faut mettre le paquet et ça peut être que positif dans tous les cas. On essaye d'être très optimiste à chaque fois parce que sinon, c'est trop compliqué, c'est trop de charge mentale si on se dit, vite, ça marche pas, et si ça. Donc, on reste soudés et on donne le meilleur de nous.
C'est bien, c'est beau. Et comme vous dites, vous n'avez pas forcément de contraintes. Donc, c'est maintenant, entre guillemets, ou jamais, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué quand on a une maison, c'est plus compliqué quand on a un enfant, notamment. Donc, c'est bien de le faire maintenant. Tu l'as dit aussi, Flavio, bon, vous avez investi. Il reste peanut aujourd'hui. Donc, il y a quand même cette notion de risque. Bon, qui est mesuré, mais il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que si vraiment tout ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien derrière. Bon, après, il y a toujours soit des amis, soit des parents qui peuvent aider, mais ce que je veux dire, c'est, cette chose-là, vous ne l'avez pas forcément pensé, même si c'est dans un coin de votre tête, parce que vous êtes ensemble, vous êtes fusionnels, vous croyez en votre projet, quand vous êtes deux, notamment deux esprits qui sont vraiment à fond dans quelque chose avec la même détermination, forcément, ça ne peut que aller loin. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous effraie un petit peu ? C'est quoi votre perception par rapport à ça ?
En vrai, tu vois, imaginons que tout se pète la gueule. On perd que de l'argent. On ne peut pas perdre notre santé. Il n'y a pas mort d'homme. Donc ça, c'est OK. Aucun souci. Maintenant, si tu voulais parler de qu'est-ce qui se passe si nous, en tant que couple, on s'embrouille. En fait, comme Meryl, tu l'as dit, on avait créé déjà un site e-commerce. On faisait de l'achat-revente, donc déjà on avait cette expérience de bosser ensemble. Et puis on va pas raconter toute notre vie, tu vois, mais on a testé quand même plein de choses pour savoir que ok, là c'est pas juste on a une idée. En fait, avec Meryl, on n'est pas pareil, on est complémentaires. C'est-à-dire que en clair, je vais caricaturer à mort. Meryl, elle met les mains dans le cambouis, quoi. Elle met les mains à la pâte, elle sait ce qu'il faut faire. Et puis au bout d'un moment, elle me dit tiens, j'ai plus d'idées, je me pose une journée. Je dis tiens, regarde, j'ai trouvé trois idées. Elle fait super, je repars travailler. Ça se passe vraiment c'est comme ça. Hein. Et du coup, en fait, ça fait que chacun ses responsabilités et on s'alterne comme ça. Et...
Mais pour la notion de risque que tu as évoqué aussi, c'est que Flavio continue les coachings, donc il y aura toujours une rentrée d'argent. Et moi, je me mets à 100% sur le projet parce que comme c'est un projet de grosse envergure, faut que je 100%, qu'il y ait quelqu'un à 100%. Donc moi, je mets pause sur les coachings, les suivis longue durée. Je continue des coachings, par exemple, d'une heure, one shot, avec des conseils personnalisés. Mais vraiment, je mets tout mon temps sur la boîte de compléments, alors que Flavio continue les coachings principalement, sous que ça prend beaucoup d'ampleur lui aussi. Donc on se partage comme ça le travail, même s'il est aussi sur les compléments. On fait les choses, comme tu l'as dit aussi bien, on minimise le risque. Notamment, on n'est pas non plus... des jeunes un peu débiles qui foncent tête baissée sans trop réfléchir, c'est que malgré tout, on a quand même un petit coussin de sécurité avec les coachings de Flavio.
Et en plus, avant de lancer le projet officiellement, on a fait beaucoup aussi d'aller-retour avec des avocats pour qu'en termes de droit, nickel, on voulait pas justement faire un truc à l'arrache, à la va-vite. Au point que le labo avec qui on bosse, ils nous ont dit... On en a lancé des marques de compléments, mais alors un démarrage comme le vôtre aussi carré. Non, mais nous, ça nous fait plaisir parce que, tu vois, le but, c'est pas de faire un braquage et partir. C'est, moi, si dans 40 ans, tu vis, t'es toujours à la tête de cette marque parce que c'est un carton plein, elle est distribuée dans 30 pays, mais je signe maintenant devant tout le monde, tu vois. Ah ouais. Donc, on se protège. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tous les avocats nous ont dit, faites 51%, 49%, on a dit d'accord, merci pour le conseil, on va faire 50-50 parce que, c'est important pour nous qu'il n'y en ait pas un qui sous embrouille. T'imagines, elle a 51%, à un moment, on s'embrouille, elle a le lead sur toutes les décisions. On est où, là ? C'est où ?
C'est important. Et c'est bien d'avoir fait encadrer par, justement, des avocats ou le cadre de juridique. Question, pourquoi ils vous auraient conseillé ça ? Est-ce qu'ils ont donné des détails pour qu'il y en ait un qui est 51, 49 ? Moi, je n'arrive pas à comprendre, justement, cette décision de leur part.
C'est vrai que c'est... C'est un peu bizarre parce que même quand on est à 50-50, il y a un truc qui s'appelle les packs d'associés et on peut dire, par exemple, les responsabilités de chacun. Donc, par exemple, s'il y a un problème, je sais pas, moi, si je m'occupe du financier, des achats, des fournisseurs, s'il y a un problème sur ça, c'est moi qui suis responsable et que c'est Flavio qui s'occupe plus, des relations, des partenariats. S'il y a un problème, c'est lui qui doit gérer ça. Mais c'est vrai que 51-49, c'est censé être plus... enfin moins dangereux, mais j'ai toujours pas compris pourquoi c'est moins dangereux, parce qu'il y a quand même un pacte d'associés qui dit telle personne a ce rôle-là, telle a ce rôle-là. Je pense que c'est pour départager, qu'il y en a toujours un qui est plus le lead, mais du coup il y aura toujours un qui sera plus avantagé que l'autre. Donc je pense que ça dépend vraiment de la vision de chacun.
Ouais, et puis aussi il y a un peu tout ce qui n'est pas juridique aussi, c'est-à-dire que nous c'est vraiment un projet, j'ai envie de dire, de famille presque. Ouais. Notre famille nous a aidé à investir. Nous, on se voit en famille, on a les mêmes valeurs, on a une conception aussi de la vie de par la religion qui fait qu'en fait, il va pas y avoir de roublardise de 51-49. Mon argent, c'est son argent, c'est mon argent. Et si, je sais pas, la boîte, elle est valorisée un jour à 10 millions, les gens qui me diront « Ah oui, donc ça fait 5 millions pour toi, 5 millions pour elle », on dira « Non, non, ça fait 10 millions pour nous, point barre.
» C'est bien, c'est beau. Et je pense que c'est bien dès le départ. Vous vous êtes fait conseiller, mais vous n'avez pas forcément pris tous les conseils. Ça aussi, c'est un message que vous envoyez, parce que ce n'est pas parce que tu as un avocat qui te dit qu'il faut faire d'une telle façon que tu es obligé de l'écouter. Il faut aussi faire en fonction de ce que vous, vous voulez, notamment avec la vision que vous avez de votre couple, mais aussi de l'entreprise. Tu l'as dit, demain, vous valez 10 millions, 10 milliards. C'est vous, ce n'est pas un ou une, ce n'est pas la moitié. Et c'est ça qui est bien. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment la vision de base. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on commençait à parler des premières fois communes, j'ai dit, bon, démerdez-vous pour savoir qui va répondre. Mais en fait, vous avez un petit code entre vous. On n'en a pas parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Mais c'est quoi votre code, en fait, pour savoir qui intervient sur le podcast? Parce que les gens ne savent pas. Moi, je vous vois, mais eux, vous ne voient pas.
On se comprend, en fait, avec un regard.
C'est ça. On se complète. Ouais, c'est vrai qu'on sait toujours bien comment se compléter, qui dit quoi. Enfin, ça se fait naturellement, en fait. Dès qu'il y en a un qui a fini, l'autre complète. Il y a toujours quelque chose à se dire. Donc, non, là-dessus, on est assez... complice.
Top. Bah, c'est une bonne transition pour parler de notre dernière première fois. Je vais y arriver. J'aurais dû faire comme toi, Flavio, boire un petit coup d'eau. On va parler du coup de la première fois que vous êtes en couple, donc couple entrepreneur. Donc là, on a parlé effectivement de votre marque que vous développez. On aurait pu même en parler avant de cette première fois. Mais quand je dis couple, c'est... voilà, on peut avoir des préjugés dans le sens, là, pas dans le sens, on est en train de juger votre couple, mais est-ce que je dois m'associer avec un cousin? Est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un de la famille? Moi, par exemple, j'avais des préjugés avant pour me dire, tiens, m'associer avec ma femme, m'associer avec un ami, un proche. Non, je sais que ça peut être conflictuel, moi, je préfère être seul. Ça, c'était avant ma façon de penser. J'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. J'évolue encore plus, notamment avec la préparation qu'on a eue ensemble, parce qu'à vous écouter, voilà, c'est vachement bien, ça montre que c'est possible. Je vous souhaite le meilleur vraiment pour la suite. C'est quoi votre avis par rapport à ça, sur les gens qui peuvent être un petit peu, notamment, fermés, mais vraiment fermés, catégoriques, donc moi je ne m'associe pas en couple, c'est mort, c'est ma décision, c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que justement il faut être un couple fusionnel, complémentaire? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Je pense qu'il n'y en a pas, mais c'est quoi votre avis par rapport à ça?
Selon moi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Enfin, de bon ou mauvais choix. C'est juste qu'il faut voir comment on se sent. Nous, pour nous, c'est une évidence parce que, comme on l'a dit, on est hyper complémentaires. Donc, au moins, on se marche pas dessus. On sait qui doit faire quoi. Donc, s'il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de prise de tête. On est chacun de notre côté. Dès qu'on a quelque chose à regarder ensemble, on se met en commun, et on avance. Mais c'est sûr que je peux comprendre que pour certains, c'est compliqué parce que, selon le caractère, selon qui aime bien faire quoi, ça peut être plus ou moins difficile de départager le travail. Après, nous, c'est vrai qu'on est fusionnels et qu'on arrive... Enfin, franchement, on s'embrouille jamais parce que on sait qui doit faire quoi. Et je pense que la communication, c'est hyper important dans tout, hein, que ce soit en couple, mec, avec des amis, de la famille. Et voilà, on communique hyper bien, on se dit tout et ça aide vachement à aller de l'avant. Enfin, voilà, on peut aller de l'avant très facilement. On va vite parce qu'on aussi, on se complète. Et voilà, selon moi, je pense que il n'y a pas de bon choix, mais il y a, comment dire, on se connaît tellement bien que pour nous, il n'y a pas plus de risque d'être associé en couple que d'être associé avec des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a qui s'associent alors qu'ils se connaissent depuis une semaine, deux semaines, juste, ils ont un business tous les deux qui marche bien et let's go, ou en famille, voilà. Bon, selon moi, c'est ça. Je sais pas si...
Non, mais t'as raison, et pour nous, en fait, c'est ça.
Ouais.
Parce que on connaît aussi les familles l'un de l'autre. C'est vraiment l'entrepreneuriat, en fait, comme il a toujours eu lieu, juste depuis 30 ou 40 ans, on nous dit attention, le couple, un couple sur deux à Paris divorce, donc machin. Mais c'est parce qu'aussi, peut-être parce que les valeurs changent beaucoup, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un double truc. C'est à la fois on divorce pour beaucoup moins, et en même temps, aussi on se met en couple avec les mauvaises personnes. Donc, forcément, ça accélère les ruptures, mais c'est que du bonheur. Et tu sais, moi, les gens ils me disent souvent, t'en as pas marre d'avoir tout le temps. Et je te jure que quand elle va à la salle et que je vais pas à la salle, au bout d'une heure, elle revient, je fais « Ah, quand même, tu vas me manquer. »
Et Flavio, je peux dire un truc, parce que justement, tu donnes une autre anecdote par rapport à la salle de sport. C'était quand on avait préparé notamment ce podcast, tu m'avais dit un truc, moi, qui m'avait touché et que je trouvais ça trop beau, trop mignon. Je suis entrepreneur, j'ai du caractère, mais j'hésite pas à dire les choses qui sont belles pour moi, parce que les valeurs que vous véhiculez, elles sont fortes. C'est quand Meryl, elle part chercher du pain, elle me manque.
Tu ah ouais, c'est ouf, hein. Et je sais que c'est réciproque.
Mais oui, non, mais c'est vrai que. Bah, en fait, ouais, on a toujours des trucs à se dire. On peut être H24 ensemble. Alors, on est parti quand même 3 mois. On n'était que tous les deux. Bon, en Asie, il y avait 2 autres potes à nous. On était quand même tout le temps ensemble. Et on ne sait pas. Enfin, voilà, on n'en a pas marre parce qu'on a toujours des trucs à faire. Et comme on l'a dit, comme on est complémentaires et on ne se marche pas dessus sur les tâches, etc., bah, c'est beaucoup plus simple. C'est fluide. Il n'y a pas de raison de se rembrouiller. Mais après, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit différent.
Ouais. Et c'est ça qui est bien parce que vous, comment dire, alors vous étiez tout le temps ensemble, vous êtes partis ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes un couple donc dans la vie perso, mais vous êtes un couple aussi dans la vie pro du coup. Et en gros, ce que tu disais Meryl aussi et Flavio, c'est qu'on ne peut pas se mettre en couple et ensuite être entrepreneur ensemble si toutes les étoiles ne sont pas alignées, c'est-à-dire si le caractère, s'il y en a un qui veut être... plus fort que l'autre, avoir plus de lead ou autre. Donc, il y a quand même ça à prendre en compte. Vous, il y a cette fusion naturelle, cette complémentarité naturelle aussi qui est là. Donc, c'est possible. Après, ce que vous envoyez comme message, c'est que c'est possible, mais concrètement, que ça ne peut pas fonctionner du coup avec tous les couples.
Ouais, et puis tu vois aussi, c'est hyper sain. C'est-à-dire que je ne sais pas si demain, Meryl, elle a une opportunité qui peut lui permettre d'avoir un autre truc et qu'elle peut gagner plus d'argent que moi, je serais très content. On s'en fout de qui a le plus d'abonnés sur les réseaux. Et en fait, justement, tu vois, il y a beaucoup d'histoires aussi avec des associés où d'un coup, il y en a un qui a trahi parce qu'il s'est fait soudoyer. Là, si tu te trahis, c'est pas juste une boîte, c'est une famille, c'est un couple, c'est des cercles d'amis qui sont fondés avec nous comme référents parce qu'on a fait rentrer du monde. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas cette notion de « Ah, on va essayer de le faire venir vers nous, on va essayer de… » C'est vraiment beaucoup plus solide que ce que les gens peuvent penser quand on entreprend en couple. Et justement, nous, on s'est dit, la pire chose qui peut nous arriver, c'est à 40 ans de rien avoir à raconter à nos enfants. Et rien que là, tu me mets un gosse, je crois que j'ai assez pour lui parler jusqu'à sa majorité. Alors, je ne pas, tu vois, dans quelques années. Et puis surtout, chaque jour est différent.
Oui, c'est ça aussi.
Et je sais que par expérience aussi, je connais pas mal de personnes, tu vois, qui ont le cas inverse où un des deux est entrepreneur et l'autre non. Et très souvent, un truc qu'ils nous disaient en off, c'était ça m'embête parce que des fois, quand elle a des journées qui se ressemblent, elle a moins de choses à me dire que moi et donc ça crée un écart, quoi.
Moi, je pense que, ouais. Je pense que t'as tout dit et je pense aussi, Alexandre, que tu dois voir dans les podcasts que, mais toi aussi, tu le sais, que quand t'es entrepreneur, bah, tes journées sont jamais les mêmes. Donc, il y a toujours des trucs à dire, c'est toujours différent. Toujours des trucs à voir. Il faut être vraiment flexible quand t'es entrepreneur et ça aide aussi à, comme tu dis, à alimenter la discussion, à avoir pas mal de choses à dire, à réfléchir, voilà.
Mmh. Et puis c'est passionnant l'entrepreneuriat. Si en plus vous êtes animé par ça, vous êtes dans le même secteur d'activité, la même passion qui vous anime au quotidien. Donc vous êtes aussi différent, c'est-à-dire dans votre manière de fonctionner. Donc l'un apprend de l'autre et inversement. Donc c'est ça aussi qui est fort et qui fait la puissance de votre couple. J'emploie volontairement le mot puissance. Et puis encore une fois, voilà, vous êtes un beau couple. Vous envoyez une belle image comme quoi c'est possible dans l'entrepreneuriat. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous dire merci d'avoir été dans le podcast. Je suis très content.
Bah, surtout, merci à toi. C'est vraiment un honneur. On est trop contents. Et j'espère que ça va aider pas mal de personnes. Et puis voilà, qu'il ne faut pas, encore une fois, oui, la vie est risquée. Mais si on ne prend pas de risque, il ne se passe pas grand-chose. Et comme on dit, qui ne tente à rien n'a rien. Donc, pourquoi pas essayer? Et puis, si vraiment les gens pensent que ça met à mal le couple, vaut mieux arrêter avant pour que ça reste une relation saine. Mais pourquoi pas essayer? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous entendez bien. Et voilà.
Ouais, puis surtout, en fait, si on ne peut pas entreprendre en couple, tu vois, il pourrait y avoir une autre vision. Je ne dis pas qu'elle est vraie, juste que c'est possible. Est-ce que du coup, en fait, on est fait pour être ensemble ou alors on reste ensemble en cachant une partie? Parce que finalement, entreprendre, on crée un bébé. Il y a de l'argent en jeu, mais tu vois, si un jour on crée un vrai bébé, il y a aussi de l'argent en jeu. C'est bon, il va falloir le nourrir, on veut une super scolarité pour lui, bref, tout ça. Donc tu vois, il y a ce truc de, ok, mais si en fait on n'arrive pas à entreprendre une boîte, en quoi on pourrait entreprendre une famille? Voilà, je laisserai les gens philosopher sur ça et te dire, nous on est très contents d'être passés, c'était notre première interview à tous les deux sur la chaîne de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Oui, parce que vous avez un podcast, dites-nous-en un peu plus d'ailleurs, le podcast commun, donc une marque de produits alimentaires. Vous êtes en couple dans la vie, donc perso, vie pro, vous êtes en couple d'entrepreneurs. Le podcast, il s'appelle comment?
Il s'appelle Corps et Esprit, et justement, c'est un podcast sur la santé physique et la santé mentale. Donc sur les réseaux sociaux, on donne quand même pas mal de conseils, mais là, en podcast, on peut beaucoup plus développer. Donc, on donne bah, justement des conseils beaucoup plus poussés et des thématiques bien précises. Et là, justement, si on commence à inviter du monde, notamment des entrepreneurs, on parlera santé avec eux parce qu'on n'entend pas souvent les entrepreneurs sur le côté santé. Et je trouve ça hyper intéressant de voir bah, les routines de chacun et ça peut vraiment aider d'autres personnes à se reconnaître et se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et c'est tout le but de ce podcast, c'est vraiment aider un maximum de personnes au niveau santé.
Top, un super podcast. Et puis comme tu dis Meryl, sur la santé, voilà, tous les entrepreneurs en règle générale ont quand même des routines bien spécifiques et précises parce que quand tu es vraiment voilà, mis à contribution physiquement, au niveau de l'esprit également, tu as besoin que ta santé soit optimale, tu as besoin de faire du sport sans que ce soit du sport en mode 3 heures par jour et que ce soit vraiment par obligation entre guillemets, il faut que ce soit vraiment voulu, mais c'est hyper important notamment pour garder le rythme. Avant de conclure, du coup, une question pour chacun de vous, une seule question et vous répondez tous les deux à tour de rôle avec vos codes respectifs. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur, une entrepreneuse qui nous écoute, qui ne sait pas trop si elle doit se lancer ou autre? Là, ce n'est pas une question de savoir si on est en couple ou pas pour se mettre en couple d'entrepreneurs, mais j'ai des questions, je ne sais pas. Un peu comme toi, Meryl, quand tu nous as parlé, tu étais dans un grand groupe, mais tu t'es rendu compte que tu n'étais pas à ta place. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces personnes-là qui sont dans ces réflexions pour savoir s'ils doivent, oui ou non, prendre des risques et se lancer dans l'entrepreneuriat?
Écoute, je les inviterai, moi, déjà à foncer, à se poser la question, c'est quoi des risques à l'échelle d'une vie, à l'échelle de l'univers?
Mais toi, au niveau du risque, c'est bon, la Bulgarie, on sait.
Non, mais c'est, tu vois, tu te dis, franchement, qu'est-ce que... T'as tout à rater à pas y aller. Et tu vois, la vie, elle est quand même courte. Elle peut faire mal du jour au lendemain, tu peux te prendre une voiture et qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, on est de passage ici, faut qu'on fasse la vie la plus kiffante qu'on peut. Faut vraiment arrêter de se poser des questions, quoi, parce que le temps passe très 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 vite, hein. Donc genre limite, c'est presque philosophique, spirituel ce que je dis, mais je sais pas, tu regardes à l'échelle de l'univers, qu'est-ce que ça va changer que tu quittes ton job, que pendant un moment c'est la galère, la Terre va tourner, le Soleil va continuer à briller, les étoiles continueront à exploser à des milliards de kilomètres. C'est juste toi vers toi, quoi.
Assez d'accord. J'aime bien ce que tu dis. À toi, Meryl.
Bah, je rajouterais, je suis d'accord aussi avec ce qu'il dit.
Et j'ajouterais sur... Pourquoi je suis pas étonné?
Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès à l'information que ceux d'avant n'avaient pas, et on a vraiment accès à tout. Et je me dis qu'il n'y a rien qui nous empêche d'essayer, de tester. On a tellement, il existe tellement de formations que, bah, on peut se former, essayer un truc. Et si ça marche pas, bah, soit tant pis, soit on essaye autre chose. Ou à la limite, si vraiment les gens ont trop peur de quitter leur job, bah, ils mettent les bouchées doubles et ils font ça en plus pour tester un peu, pour voir si ça leur plaît vraiment. Et petit à petit, faire un peu moins d'heures parce que, bah, forcément, si on n'est pas à 100% sur une mission, ça peut ne peut-être pas aussi bien marcher que quand on l'est moins. Mais voilà, donc je pense que en plus de ce qu'a dit Flavio, je rajouterais le fait qu'on a quand même la chance d'avoir accès à l'information et que c'est vraiment plus simple de changer du jour au lendemain de métier. Il y en a beaucoup qui le font, on le voit là, même depuis le Covid, énormément de reconversions professionnelles parce que les gens se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient ne leur plaisait pas, quoi. Ils s'ennuyaient et le but c'est que, bah, si on, comme il l'a dit, la vie est courte. Si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on a à faire, sachant que le travail c'est une énorme partie de notre journée. Donc, si on prend pas de plaisir, ça commence à être compliqué. Donc, vraiment, j'encourage aussi toutes les personnes à se lancer, à essayer. Voilà, encore une fois, essayer. Et puis, bah, si ça marche pas, peut-être que c'est pas fait pour vous. Et si ça marche, bah, tant mieux. Au moins, vous l'aurez su, quoi.
Carrément. On conclut de la meilleure des façons. Et je rebondis sur ce que vous disiez, cette notion de risque, mais enfin de doser, en tout cas. Avant, on n'avait pas l'information. Donc, devenir entrepreneur, c'était un risque. Aujourd'hui, le risque, avec toutes les informations qu'on a, c'est de rester sur son canapé et de rien faire.
Exactement.
Si c'est la vie qu'on a choisie, pas de problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ont des pensées un petit peu limitantes. Et là, vous montrez clairement que, bah non, dès qu'on a l'envie, comme tu dis Flavio, c'est pas le fait qu'on quitte notre emploi que ça va changer quelque chose dans l'univers, même si c'était spirituel comme tu dis, mais j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié et c'est vrai, c'est puissant. Donc c'est des beaux messages que vous véhiculez. Merci encore à vous deux d'avoir été présents. Je suis très content de vous avoir accueillis. Vous êtes un beau couple encore et je suis vraiment très content de tous ces messages et de la valeur que vous véhiculez autour de ça. Moi, ça me touche vraiment profondément. Donc, je suis très content encore une fois de vous avoir accueilli. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire encore des choses ensemble.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Franchement, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra. Ça nous fera trop plaisir.
Et en espérant que Nutripreneur soit sorti.
Exactement. On espère.
C'est Nutripreneur, c'est ça le nom?
Ça, Nutripreneur.
Nutrition entrepreneur. On s'est dit, tiens, Nutripreneur, ça.
Simple, les entrepreneurs sont simples, faut faire simple.
Ok, longue vie à Nutripreneur. Et puis encore merci à vous. Et moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, avec un nouvel invité. Salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.